France Culture.
Et le journal vous est présenté par Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Adopté, les députés ont finalement donné de justesse en début d'après-midi leur feu vert à la partie recette du budget de financement de la sécurité sociale. Une petite victoire pour Sébastien Lecornu, mais le chemin reste semé d'obstacles, nous expliquera Rosalie Lafarge. Chine devant la justice, cet après-midi à Paris, audience civile après le scandale des poupées pédopornographiques et des armes blanches vendues sur la plateforme asiatique. L'État français réclame la suspension de la plateforme pour 3 mois, décision mise en délibéré à la fin du mois, compte rendu d'audience avec Valentin Gris. Un ancien policier de la BAC de Marseille, mis en examen pour violence aggravée, il est poursuivi pour avoir violemment passé à tabac une jeune femme de 19 ans, il y a 7 ans, en marge d'une manifestation de gilets jaunes à laquelle elle n'avait pas participé. L'Amérique d'abord, la fin des migrations de masse et la prédiction d'un effacement civilisationnel de l'Europe, c'est du Donald Trump dans le texte, un document sur la stratégie de sécurité nationale publié aujourd'hui. Décryptage avec Agathe Mahuet aux États-Unis. 82 milliards de dollars, c'est le montant du chèque record que Netflix s'apprête à signer pour racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery. Loïc Piala nous parlera de cette transaction astronomique. À force de concessions, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, Sébastien Lecornu peut momentanément souffler. La partie recette du PLFSS, le budget de la Sécu, a été adoptée cet après-midi. 166 voix pour, celle de Renaissance, du Modem, du PS et de Liotte. 144 contre, celle de LFI, des Verts et de l'extrême droite. Un vote qui ouvre la voie à une adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale d'ici la fin de l'année et qui semble consacrer une méthode Lecornu, même si le Premier ministre n'est pas au bout de ses peines. Rosalie Lafarge.
Validation de la méthode Lecornu se félicite une partie du bloc central. Validation surtout d'un parlementarisme qui fonctionne, salue la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet.
Moi, je suis fière que les parlementaires de tous bords politiques se soient enfin mis dans cette logique, dans cet esprit de discussion, d'aller vers, de compromis. Il faut faire des pas les uns vers les autres et c'est ce que nous avons fait depuis des jours et des jours. Et donc, j'en suis satisfaite. Maintenant, vous savez, ça n'est pas fini.
C'est même loin d'être fini ce vote si important. Soit-il, ne dit rien de la suite, rien de ce qu'il adviendra de l'ensemble du budget de la sécurité sociale. Les contres resteront sans doute contre, à l'image de Jean-Philippe Tanguy au Rassemblement national.
On voit bien que c'est n'importe quoi, ça n'améliore pas le soin et la prise en charge des malades, ça ne rétablit pas les finances, ça ne fait que créer des taxes ou des baisses de droits. Et on voit bien qu'en fait, le projet de loi de finances de la sécurité sociale est devenu un plan de facturation du sauvetage des sièges du système.
Mais tout le travail va surtout consister à convaincre les socialistes de rester et les abstentionnistes de revenir, notamment ceux de LR et d'Horizon. Leurs voix ont majoritairement manqué à l'appel et leurs alliés ont du mal à le comprendre. Marc Fesneau préside le groupe Modem.
C'est pas le budget du Modem, c'est pas le budget d'Horizon, c'est pas le budget du PS, c'est pas le budget de... C'est le budget de personne, il va falloir qu'on se le dise. Et ça serait bien aussi qu'on sorte de la logique de qu'est-ce qu'en penseront les gens en 2027. Moi, je pense que nos concitoyens, ils attendent qu'on soit responsable du moment.
Cette haie franchie permet en tout cas aux députés de se pencher depuis le milieu d'après-midi sur la partie dépenses du texte avant le vote final prévu pour l'instant, mardi.
Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. Shein, le géant asiatique du commerce en ligne, face à la justice française, audience civile cet après-midi devant le tribunal judiciaire de Paris. L'État français a demandé via le ministère de l'économie la suspension de la plateforme pour 3 mois. En cause, la découverte en ligne début novembre de poupées pédopornographiques ainsi que d'armes blanches et de médicaments. Bonsoir Valentin Gris.
Bonsoir.
Vous étiez à l'audience cet après-midi. La marque chinoise a donc enfin pris la parole pour se défendre. Après avoir refusé d'honorer des convocations à l'Assemblée nationale, elle voulait, dit-elle, réserver ses arguments pour la justice.
Oui, et elle dénonce une cabale construite par le gouvernement pour cristalliser une colère politique contre Shein. Surtout, au-delà des éléments de langage, elle estime avoir réagi très vite aux demandes de la direction de la répression des fraudes, en suspendant d'elle-même les vendeurs concernés par les produits pédopornographiques, ainsi que toute sa section de produits pour adultes, et ce, dans le monde entier. Elle défend la qualité de ses contrôles, qui auraient déjà exclu 27 000 articles articles à caractère sexuel de sa marketplace, des contrôles automatisés ou humains sur l'identité des vendeurs ou sur la description des produits. Mais elle reconnaît en creux des manques, trop de lenteur pour appliquer un décret publié en septembre sur les armes blanches et des vérifications qui séparent la description d'un produit de son image. Or, c'est le mélange des deux qui révélait le caractère illégal de ces poupées.
Car en face, Valentin, l'accusation a légèrement modifié ses demandes.
Oui, l'avocat du ministère de l'économie réclamait la suspension de toute la plateforme, mais le parquet de Paris avait expliqué fin décembre qu'il ne suivrait pas cette requête. Alors l'État formule un plan B, que Shein soit contrainte à maintenir la suspension de sa marketplace uniquement et de tous ses produits maison qui ne seraient pas des vêtements, et ça tant qu'elle n'a pas filtré les produits illégaux et obligé les utilisateurs à vérifier leur âge avant d'accéder à des produits pour adultes. Ce serait à l'ARCOM de juger de la bonne application de ces mesures avant de lever le blocage auprès des fournisseurs d'accès à Internet.
Valentin Gris, merci. Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre. Alors où sont produites ces poupées sexuelles en forme d'enfants qui ont été mises en vente en France sur Shein? C'était un mystère jusqu'à une enquête de journalistes chinois qui ont pu remonter la filière et découvrir que plusieurs de ces poupées sont sorties d'une usine chinoise et ont été exportées dans le monde entier. Le récit à Pékin de notre correspondant Sébastien Berriot.
Ce sont des journalistes chinois, alertés par le scandale Shein en France, qui ont enquêté et leur travail a démarré sur les plateformes de vente en ligne les plus visitées en Chine, Taobao, Douyin ou encore Jingdong. En fouillant sur les applications, les journalistes ont rapidement trouvé des poupées sexuelles mises en vente et remarqué que certaines d'entre elles avaient clairement le visage et la taille de petites filles. Comme pour n'importe quel autre produit, les clients inscrivaient même des commentaires. On pouvait lire par exemple des acheteurs se félicitant du caractère réel de ces poupées. Les journalistes chinois ont commandé plusieurs produits, ce qui a permis avec les étiquettes de remonter jusqu'à l'usine située à Huizhou dans la province du Guangdong. Interrogés sur place, les ouvriers ont confirmé cette production illégale destinée au marché chinois, mais aussi exportée dans plusieurs dizaines de pays. Alertée, la police chinoise a ouvert une enquête et ordonné l'arrêt immédiat de la fabrication de ces poupées à caractère pédopornographique.
Sébastien Berriot, correspondant de France Culture à Pékin. La Cour d'appel de Paris a validé cet après-midi le plan de réduction de dette d'Altice France, la maison mère de SFR, une réduction de la dette de 8 milliards d'euros. En contrepartie, les créanciers se sont vus accorder 45% des parts d'Altice France. Ce plan, avancé par la direction, validé donc par la justice, était combattu par le CSE et par les syndicats qui craignent une vente de SFR avec des conséquences sur l'emploi des 8000 salariés de l'opérateur. Nous sommes abattus, mais nous savons que le plus dur reste à venir, a réagi la CFDT de SFR. À Marseille, un policier a été mis en examen pour violence aggravée 7 ans après les faits. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Il lui est reproché d'avoir violemment passé à tabac une jeune femme de 19 ans le 8 décembre 2018 en marge d'une manifestation de gilets jaunes. La jeune femme sortait de son travail et rentrée chez elle, elle avait été grièvement blessée à la tête après avoir été frappée à terre. Les précisions de Pierre de Cossette.
La jeune fille qui a eu le crâne fracturé par des coups de pied reçus alors qu'elle était au sol avait presque perdu espoir, d'autant que 2 fois la justice a rendu un non-lieu. Mais l'enquête a été rouverte en 2023. Nouvelle juge d'instruction, nouvelle équipe de l'IGPN, la police des polices sur place, et le travail a fini par payer. En 2 mois, 3 vagues d'interpellations, 9 policiers mis en examen. La fin de l'omerta se réjouit l'avocat d'Angelina, Brice Grazzini.
On sait que une personne qui a été mise en examen a pu dénoncer justement ce système d'omerta en expliquant que certains membres de la hiérarchie, certains membres de syndicats ont pu mettre des pressions sur certains témoignages pour que très clairement les policiers qui auraient pu être mis en cause à un certain moment mentent et ne disent pas qu'ils se trouvaient sur place. Et ça, c'est quelque chose qui a été dénoncé dans le cadre de l'information judiciaire.
Et hier soir, c'est donc un policier de 39 ans qui avait quitté depuis le département mais continuait d'exercer puisqu'il n'avait pas été identifié, qui, à l'issue de sa garde à vue, a été mis en examen. Lui est poursuivi pour avoir frappé Angelina, 19 ans, qui, ce jour de 2018, ne manifestait pas. Elle rentrait du travail avec son petit ami, lui aussi frappé devant d'autres policiers, tous de la BAC Nord de Marseille.
Pierre de Cossette. Le parquet militaire de Rennes ouvre une enquête après un survol de 5 drones hier soir au-dessus de la base qui abrite les sous-marins nucléaires français. français dans la rade de Brest. Des vols destinés à inquiéter la population, a précisé la préfecture maritime, précisant qu'il est trop tôt pour en caractériser l'origine. Ce survol a provoqué des tirs anti-drones effectués par le bataillon de fusiliers marins qui assure la protection de la base, mais aucun drone n'a été abattu, précise la préfecture, qui ajoute que ces survols ne sont pas rares dans cette zone interdite et qu'il existe des précédents. À la mi-novembre, des drones avaient ainsi été repérés au-dessus de la presqu'île de Crozon, tout près de l'île Longue, une autre zone militaire. Aux États-Unis, l'administration Trump a publié aujourd'hui un document qui redéfinit sa stratégie de sécurité nationale. Sans surprise, on y parle d'Amérique d'abord, de réajustement de la présence militaire mondiale des USA, de migrations qui doivent prendre fin ou encore d'un continent européen voué, selon les termes trumpistes, à un effacement civilisationnel. Agathe Maluet, la correspondante de France Culture aux États-Unis, a épluché ce document.
C'est le vieux continent qui a droit à l'analyse la plus sévère. Si les tendances actuelles se poursuivent, l'Europe sera méconnaissable dans 20 ans ou moins. Et les membres de l'OTAN seront devenus majoritairement non-européens. Voilà ce que dit ce texte, reprenant donc à son compte la théorie d'extrême droite d'un prétendu grand remplacement. L'immigration en Europe provoque un effacement civilisationnel, dit encore ce document de 33 pages, qui appelle les principaux alliés de l'Amérique à cultiver la résistance. L'administration Trump enfonce le clou en désignant les efforts visant à contenir l'extrême droite en Europe comme une répression de l'opposition politique. Pas de surprise majeure, mais une confirmation des grandes lignes de la politique étrangère américaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le texte réaffirme également la suprématie, la domination des États-Unis en Amérique latine, ressuscitant là la doctrine Monroe de 1823, qui faisait du continent sud-américain la chasse gardée de Washington. Mais cette stratégie entend aussi en finir avec l'époque où tel atlas, les États-Unis, soutenaient l'ordre mondial tout entier.
Agathe Mahuet, correspondante de France Culture aux États-Unis. Aux USA toujours, des experts nommés sous Donald Trump recommandent aujourd'hui de ne plus vacciner tous les nouveau-nés contre l'hépatite B. 120 millions d'euros, c'est le montant de l'amende que vient d'infliger l'Union européenne à X, le réseau social d'Elon Musk, sanction pour non-respect du DSA, le règlement sur les services numériques qui impose aux plateformes actives dans l'UE de lutter contre les contenus illégaux et dangereux en ligne. La réaction outre-Atlantique ne s'est pas fait attendre. C'est le vice-président américain J.D. Vance qui est monté au charbon. L'UE, a-t-il dit, devrait défendre la liberté d'expression au lieu de s'en prendre à des entreprises américaines pour des foutaises. Fin de citation. En Allemagne, le Bundestag a finalement donné son feu vert au maintien du service militaire sur la base du volontariat. Le texte a été adopté cet après-midi, au terme d'une âpre bataille politique avec d'un côté les conservateurs du chancelier Merz, partisans d'un retour à une forme de conscription avec tirage au sort, et de l'autre les sociaux-démocrates de tradition plus pacifiste. Une guerre des tranchées également alimentée par une partie de la jeunesse peu enthousiasmée à l'idée de devoir enfiler un treillis. Une jeunesse qui a manifesté à plusieurs reprises jusqu'à ce vote, donc en forme de soulagement pour elle, le reportage dans un rassemblement d'Hélène Fromanti.
Sur la pancarte d'Adriane, 17 ans, un slogan on ne peut plus clair, non au service militaire.
Nous sommes ici aujourd'hui pour nous opposer à ces idées absurdes selon lesquelles il suffirait pour nous de prendre les armes et de mourir pour notre patrie. Nous, les jeunes, on pense que notre avenir ne doit pas être la guerre, mais la paix.
Dans la foule, il y a également de nombreuses jeunes femmes. Elles ne sont pas directement concernées par la loi, mais pour Elena, 18 ans, c'est une responsabilité collective.
Je suis là pour soutenir mon frère, pour les enfants, pour les jeunes garçons qui pourraient être appelés sous les drapeaux.
Personne ne devrait être forcé de se battre ou de mourir pour son pays. Donc pour moi, le service militaire obligatoire est très problématique et devrait être fermement condamné.
Les jeunes volontaires seront rémunérés à hauteur de 2600 euros par mois. Pas de quoi donner envie à Lévin, 17 ans.
Je pense que ça peut être un bon argument pour beaucoup, mais pas pour moi, car je pense que ma vie vaut bien plus que ce que le gouvernement peut m'offrir. Cet argent ne pourra jamais compenser la valeur d'une vie.
Pour entrer en vigueur, ce projet de loi doit encore être validé par la Chambre haute du Parlement allemand.
Hélène Fromanti, qui poussera la chansonnette en mai 2026 à Vienne à l'occasion de la prochaine édition de l'Eurovision. Israël, en tout cas, sera derrière le micro et les caméras aux côtés de 34 autres pays. Décision de l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision organisatrice de ce concours de variété. Et cette présence de l'État hébreu a d'ores et déjà provoqué le boycott de 5 pays en raison de la guerre à Gaza. L'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie. L'Islande, de son côté, se pose également la question de jeter l'éponge, mais annoncera la couleur le 10 décembre. La France, elle, a confirmé sa participation. Une campagne de boycott dans un contexte où l'Eurovision invoque un principe de neutralité. Et si en 2022, la Russie avait été exclue du concours, ce n'était pas seulement pour l'invasion de l'Ukraine, explique Oranie Abès, chercheuse indépendante et spécialiste de l'Eurovision.
Les deux télédiffuseurs publics russes qui pouvaient participer et diffuser l'Eurovision ont été récupérés par le Kremlin pour diffuser le récit de ce qu'ils ont appelé les opérations spéciales en Ukraine. Les deux télédiffuseurs ont perdu leur indépendance, ce qui n'est pas le cas du télédiffuseur Kan israélien, qui lui n'a enfreint en l'occurrence aucune règle de non-indépendance de son télédiffuseur, et donc il peut continuer à participer selon les règles en vigueur de l'UER. Tout est là, la problématique finalement de l'Eurovision, c'est parce qu'elle met en scène des télédiffuseurs de pays différents, et donc forcément la politique ne peut que s'inviter. L'UER tente tant bien que mal d'imposer des règles qui inhibent au maximum cette prolifération de la politisation au sein de l'événement. C'est aussi pour ça qu'hier a eu lieu un vote qui invitait 1122 membres à se prononcer justement sur le renforcement des règles de neutralité. 738 membres ont voté en faveur du renforcement de ces règles de neutralité, membres auxquels il a été expliqué en amont que si ce vote recueillait une majorité, il n'y aurait pas d'autres votes ou d'autres discussions sur une éventuelle exclusion du télédiffuseur israélien. Donc cela a été fait en toute connaissance de cause.
Oranie Abès, chercheuse indépendante et spécialiste de l'Eurovision, répondait à Estelle Caméraire. C'est une somme qui donne le tournis, 82 milliards de dollars, et c'est le montant du chèque que Netflix s'apprête à signer pour s'offrir le studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery. Le géant américain du streaming récupère ainsi un immense catalogue de films, mais aussi le service de streaming HBO Max. C'est la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney il y a 6 ans pour un montant de 71 milliards de dollars. Précision de notre correspondant aux États-Unis, Loïc Piala.
72 milliards de dollars et la prise en charge de 10 milliards de dettes. L'offre de Netflix était trop belle pour Warner Bros., également courtisée par les studios Paramount et Universal. L'opération est encore plus massive que la fusion de Disney et la Fox en 2017. « Notre mission a toujours été de divertir le monde », a justifié Ted Sarandos. Le patron de Netflix, sa plateforme, aura accès à 100 ans de production hollywoodienne. Le Faucon Maltais, les films de Stanley Kubrick, l'inspecteur Harry, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Batman et des dizaines d'autres. Mais avec un tel colosse, le reste de l'industrie s'inquiète de voir un déséquilibre dans le rapport de force entre studios et créateurs. Les exploitants s'interrogent, eux, sur l'offre à venir dans leur salle. Avant même l'annonce de la vente, James Cameron avait critiqué Netflix pour ne pas sortir ses films en salle. La plateforme assure qu'elle prévoit de maintenir la façon de travailler de Warner Bros. La formule vague ne va pas le rassurer. Reste aussi l'obstacle du régulateur. Netflix ajoute les 120 millions d'abonnés de HBO Max à ses 300 millions d'abonnés. La concurrence est loin derrière. L'administration Trump peut refuser d'approuver l'opération si elle y décèle un risque de monopole. Et David Ellison, le propriétaire du rival Paramount, est un proche du président américain.
Loïc Piala, merci. La météo pour finir, c'est le retour de la pluie et du vent par l'ouest. La perturbation va s'étendre dans la nuit des Pyrénées au centre et aux Hauts-de-France. Demain, ce sera gris et humide à peu près partout et plus doux avec des maximales de 9 à 12 degrés sur le nord-est, 13 à 16 partout ailleurs. C'est la fin de ce journal. Merci à Alison Vicrobeck qui l'a réalisé et à Jean-Guilain Meige qui était à la technique.